Bien, alors, bonsoir. Donc, si vous voulez, on est à l'hémistiche, là. Hein. C'est-à-dire, on a fait autant de séances qu'il nous en reste. Et bien entendu, on est déjà un peu à la bourre, quoi. C'est normal. Donc, avant de poursuivre, je voulais vous rappeler que, pour ceux qui sont intéressés par les structures psychiques, ou surtout les processus de constitution de l'appareil psychique, vous avez un rendez-vous avec 5 cliniciens, c'est à la fin du semestre, hein, c'est-à-dire dès le 28 avril, voilà, ça s'appelle « Penser les concepts limites », c'est de la clinique pure. Hein. Donc là, vous avez des jeunes chercheurs, cliniciens de terrain, donc vraiment, je crois, profitez-en pour leur poser toutes les questions qui affleurent en vous, quoi, par rapport à ces questions-là. Voilà, ils sont bien, bien au courant, donc en particulier Yann Miller ou bien Claire Duroseard, par exemple. Donc, voilà, faites bien le joint, c'est le dernier cycle. Donc, si vous voulez, on avait un petit peu vu des généralités sur la psychose, donc j'aimerais embrayer sur un exemple bon, qui est décrit dans la littérature, qui donne un petit peu peut-être plus de précision de la vie de la personne qui peut être taxée psychotique. Et puis ensuite, ben, on va progressivement rentrer dans les médicaments qui s'appellent les antipsychotiques, c'est-à-dire les neuroleptiques. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu la genèse, puisqu'on en est resté avec l'histoire de la borite, et de lait, qui ont découvert la chlorpromazine, qui est le chef de file de ces neuroleptiques. Donc, bon, ben, ensuite, on va essayer d'explorer, au moins aujourd'hui, la famille des neuroleptiques, avec leur mode d'action, très sommaire, hein, bien sûr, mode d'action sur le métabolisme de la dopamine, et puis et les effets secondaires, bien entendu. Et puis, alors, après, bon, ben, on peut se rouler dans la fange autant qu'on veut. Voilà. Mais rien que ça, ça demande beaucoup de temps et peut-être beaucoup d'attention. Donc voilà l'étude d'un cas que je vais essayer de vous lire pour un petit peu essayer de vous représenter plus que ce que Benedetti décrit de façon générale. Là, c'est une personne particulière. Donc, SW enseignait les mathématiques. À 24 ans, il fut admis à l'hôpital après une période de 4 semaines au cours de laquelle son comportement était devenu de plus en plus excentrique. Il quittait son domicile pour y revenir aussitôt, puis ressortir, etc. Il s'était mis à faire du sport avec une intensité excessive, se montrait irritable et agressif, incapable de supporter la musique. Des difficultés dans sa vie quotidienne surgissaient, de plus en plus incompréhensibles et insurmontables. Il commençait à exprimer des idées bizarres. Il affirmait, par exemple, devoir se rendre au poste de police parce que le livre qu'il venait d'emprunter avait été falsifié. Hein, on sent tout de suite le délire quoi, qui se constitue, pour ne pas dire presque une machine à influencer, même, peut-être même déjà une parano. Ou encore, il prétendait enseigner un mauvais programme à ses élèves. Voilà. Quelques jours après son hospitalisation, SW afficha un état délirant aigu avec des discours incohérents. Il passait des larmes à l'exaltation en quelques instants. Voilà, c'est-à-dire bon, du rire aux larmes. Ses manières étaient distantes, embarrassées, absorbées. Il pensait que la radio et la télévision se référaient à lui, souvent,
et que la diffusion de certains disques était choisie délibérément
pour lui rappeler son passé. Ça vous donne une petite idée de l'enfer qu'on peut vivre quoi, dans ces conditions. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce qui apparaît, c'est que la réalité n'est pas décryptée comme on le fait habituellement, et tout fait signe, tout prend sens à quelque chose, et du coup, bon, bien sûr, c'est délirant, quoi, assez facilement. Il était convaincu que sa nourriture était empoisonnée. Alors là, bien sûr, il y a quelqu'un qui lui veut du mal, quoi, hein, là, forcément. Et donc, que sa tête et ses parties génitales étaient comprimées chaque fois que des avions passaient au-dessus de lui. SW affirmait que les pensées des autres s'étaient introduites dans son esprit. Il entendait ses propres pensées dites à haute voix et des sons hallucinatoires tels que des bruits de klaxons ou parfois des mots. Ses caractéristiques exubérantes s'effacèrent au bout de 4 mois d'un traitement à base de médicaments antipsychotiques, c'est-à-dire bon, neuroleptiques. À sa sortie de l'hôpital, SW continua à ressentir certains troubles. Il parlait très peu, manquait de spontanéité et de volonté. Après 1 an, il retourna au travail. S'il n'était plus dément, sa famille constata un changement persistant dans sa personnalité. Voilà, ça vous donne une idée de quelque chose qui a été traité rapidement. Il était en aigu, il n'a pas trop décompensé, sa structure n'a pas trop décompensé. Et les symptômes ont été plus ou moins juglés, mais il n'est pas guéri. C'est le lot général. Alors, pour incarner un petit peu plus, peut-être l'état de la psychose, je voudrais vous donner 2 ou 3 idées sur l'épidémiologie. C'est-à-dire les études qui sont faites à grande échelle. C'est-à-dire on observe, en fonction de certains critères, je reviendrai dessus, qui permettent de comparer de grandes populations pour voir le phénomène global, et non pas comme on peut le faire quand on est psychologue, voir un patient, puis un autre, là, c'est ce qu'on appelle des cohortes. Et donc, des milliers de sujets sont étudiés de façon systématique. Alors, il faut définir, bien entendu, exactement les critères d'inclusion de l'étude. Enfin, bon, c'est une étude, on va dire, statistique, quoi, en gros. Mais ça donne des éléments. Alors, avant, d'abord, peut-être une image un peu marquante. Voilà, ce sont les sœurs Germain. Alors, ce sont des quadruplés. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que la robe qui est assez proche, hein. Il y a aussi le visage. Alors, elles sont quadruplées, mais elles sont toutes schizophrènes. Alors, bien sûr, ça laisse entendre que l'œuf s'est divisé une première fois, ça fait 2 cellules qui sont restées disjointes, et puis c'est chacune de ces 2 cellules s'est divisée, ça fait 4. Voilà, donc elles ont le même matériel génétique et les mêmes conditions d'élevage, quoi, in utero en tout cas, et comme elles sont sœurs, jumelles, enfin pas jumelles, mais quadruples, forcément elles ont les mêmes conditions d'élevage. Quoi, voilà. Mais il y a une petite nuance. Leur cas a intéressé les psychiatres et leur a permis d'étudier l'étiologie de la maladie. Ces 4 femmes ont des gènes identiques, mais elles sont atteintes à des degrés différents. C'est-à-dire la psychose est plus ou moins aiguë chez l'une et un peu moins chez l'autre. Donc ça veut dire qu'avec le même environnement et puis les mêmes gènes, eh ben, quand même il y a quelque chose qui fait que ben, ça ne donne pas forcément les mêmes résultats. Même si elles ont quand même un peu tendance à halluciner un peu, puis à peut-être construire des délires ou je ne sais quoi. Voilà, ça pose un problème. Oui, ça va? Ça baigne? Voilà, donc c'est intéressant. Alors, poussons un tout petit peu plus loin. Deux analyses, hein, deux graphiques, pour faire simple. Voilà, dans ce graphique-là, on représente la fréquence de psychose, de, mais surtout de schizophrénie, dans une grande population, est rapporté à un nombre de cas pour 100 000 habitants. Alors, deux catégories sont étudiées, bon, c'est assez simple, hein, les hommes et les femmes. Voilà. Les hommes sont en noir et les femmes sont en blanc. Voilà, le marié et la mariée, quoi, en gros, hein, c'est pas gentil, le curé et la mariée, comme vous voulez. Voilà, il y a 187 hommes, là, dans ce cas-là, et 205 femmes qui sont schizophrènes dans cette 100 000 personnes. Alors là, vous avez la fréquence, et puis ici, vous avez les groupes d'âge. Alors, regardez bien la distribution. C'est ça qui est intéressant. Donc, la première, focalisez-vous sur les barres noires. Hein, ça vous donne la distribution chez les hommes. Et là, vous avez donc, ici, c'est pas tout à fait à l'échelle, hein, parce que zéro est ici. Donc, voilà, vous avez donc quelque chose qui est asymptote, malgré qu'il y ait peut-être bien les psychoses infantiles et tout un tas d'autres choses. Et puis là, vous avez une montée. Et puis là, vous sentez la descente. Alors, ça, pour un mathématicien, c'est tout de suite une courbe gamma, qui est ultra classique en biologie. Voilà, on pense toujours que c'est la loi de Gauss. En fait, pour ma part, dans ma thèse, j'ai trouvé des quantités de courbes gamma. C'est invraisemblable. Mais bon, alors c'est une propriété extraordinaire, mais bon, je passe. Alors, cette courbe gamma, bien sûr, elle a un pic. Et ce pic, c'est l'âge où se déclare la schizophrénie, et là vous voyez que c'est dans la tranche de 20-24. Alors si maintenant on prend la même population et qu'on étudie la distribution chez les femmes, je veux dire chez les femelles, quoi, par rapport aux mâles, alors à ce moment ça vous donne une distribution un tout petit peu différente. Alors maintenant vous centrez sur les bâtons blancs, somme, hein, alors. Bon, bien entendu, bon, le zéro est toujours là, et puis vous avez la montée ici, et puis là vous avez la fréquence maximale, et puis une redescente, et vous avez encore une courbe gamma, bien entendu. Mais alors cette fois, on a changé de case, vous voyez, au lieu de 20-24, c'est 25-29. Voilà. Donc ça veut dire que le démarrage de la psychose amène vraiment une différence entre l'homme et la femme. Alors, c'est toujours un petit peu délicat à interpréter, mais c'est pour ça que j'ai un peu envie de parler de mâle et femelle, parce que c'est bien mieux. C'est qu'on sait que la puberté est en avance chez les femelles, dans notre espèce en tout cas, et qu'elle est donc un petit peu décalée en retard chez les mâles. Mais et pourtant, dans la déclaration de la schizophrénie, ben, c'est inversé. Donc ça veut dire que les hormones, bien sûr, jouent un rôle, puisque c'est quand même des jeunes adultes hein, qui ont le maximum de déclaration. Là, on le voit, là, c'est deux tranches. Mais quand même, elles n'expliquent pas tout. Ça, probablement, puisque c'est inversé. Bon, alors, si je m'appuie non pas sur des chiffres, mais sur des constatations des collègues du secondaire, quoi, qui savent toujours qu'il y a au moins 2 ans d'écart de maturation entre les filles et les garçons. Quoi. Donc, il y a forcément des hormones qui décollent probablement avant chez les filles que chez les garçons. Bon, alors voilà, ça c'est une façon d'aborder les choses.
S'il vous plaît.
Oui, pardon.
Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui guérissent avec l'âge, alors.
Non, ça veut dire, c'est pas qu'ils guérissent là, de toute façon, quand on est atteint d'une psychose, on va pas guérir. Pour le moment, c'est pas guérir. Hein. C'est simplement l'âge où se déclarent des symptômes suffisamment importants pour amener une difficulté, pour amener à consulter, pour arriver à faire un diagnostic. Voilà, c'est-à-dire. Donc, bien sûr. Bon, je sais pas ce qu'on va. On peut cogiter, quoi. Une fois qu'on a des chiffres, on peut raisonner. Alors, une autre façon d'aborder, c'est de prendre, alors cette fois, les chiffres dans des conditions bien précises, bien particulières. Alors, voilà. L'observation générale, c'est que dans toutes les cultures que l'on a étudiées, on a toujours à peu près la même proportion de schizophrènes. Voilà, que ce soit chez les Papous ou chez les Européens, on a de l'ordre de 1 à 2% de la population qui est touchée. Voilà, ça vous donne ça, voilà, population générale, mettons. Alors maintenant, on regarde des cas particuliers, et là, dans la deuxième ligne, on regarde si un patient est schizophrène, quelle est la probabilité que son conjoint soit schizophrène. Et là, on s'aperçoit que... Non, ça ne veut pas dire qu'il est contaminé. Il y a d'autres explications. Hein. C'est pas le sida. Bon, voilà le chiffre que l'on peut observer à ce moment. C'est 2%. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y a 56 façons d'expliquer. Celle qui vient spontanément, c'est que, bon, le mec qui est un peu bizarre, les nanas vont essayer d'éviter de lui proposer de se marier, quoi. Hein, réciproquement, peut-être, je ne sais pas. Et puis, si par contre, ils sont tous les deux un peu bizarres, peut-être qu'ils trouvent que c'est marrant d'être bizarre. Au moins, il y en a au moins une personne qui le comprend, quoi. Donc, du coup, alors forcément, la suite du tableau fait froid au dos, quoi. Enfin, froid dans le dos, quoi, puisque tout naturellement, la contraception et tout le reste commence à être mis en échec, puisque c'est bizarre. Hein. Donc, forcément, bon, je ne vais pas plus loin, parce qu'après, c'est de l'eugénisme. Hein. Donc, mais on a vite franchi une limite, quoi. Hein, il faut... Alors, si maintenant, on continue, voilà, si on prend... un schizophrène et qu'on regarde ses cousins germains, eh bien là à nouveau jusqu'au troisième degré, hein, à nouveau 2%, hein, c'est différent cette fois, ils ont quand même des gènes communs puisqu'ils sont cousins germains, ils ont des gènes communs et il y a deux fois plus de probabilité chez les cousins germains que dans la population générale. Donc là on sent que déjà le fait que le chiffre de 1% soit stable dans toutes les cultures, donc ça veut dire tous les différents modes d'alimentation ou de climat ou de je sais pas quoi ou de guerre ou de je ne sais quoi. Bon, ça joue probablement au déclenchement, mais ça suffit pas. Hein. Il y a des grands chiffres. Là, les cousins, 2%. Oncle et tante, pareil. Alors, si maintenant on prend neveu ou nièce. Alors à ce moment, on a un schizophrène et puis on regarde son neveu ou sa nièce. Là, à ce moment, attention, 4%. C'est-à-dire 4 fois plus de probabilité que dans la population dans laquelle vivent ces personnes. Si maintenant, on le prend sous l'angle des petits-enfants. Il y a un schizophrène, il se marie, il a des enfants, et puis ses enfants, eux-mêmes des enfants. Bon, quelle est la probabilité? Eh bien, d'après l'étude, 5%. Ben, on en rajoute. Demi-frère, demi-sœur. 6%. Si maintenant, on regarde les enfants. Donc voilà, hein, vous avez donc un schizophrène qui est bien établi. On regarde sa descendance. Alors à ce moment, 13%. Si on regarde le frère ou sœur, 9%. Si on regarde le frère ou sœur avec un parent atteint de schizophrénie, 17%. On sent tout doucement que plus la proximité génétique est forte, plus la probabilité commence à devenir considérable, quoi, hein, bien sûr. Alors bien entendu, ces familles sont comprises dans les 1%, quoi, hein, donc...
Alors, je vous laisse gamberger sur cette question.
Le nœud, là, on l'a déjà un peu abordé avec les sœurs germains. Voilà, il y a le chiffre cette fois. Si on prend les jumeaux dizygotes, donc jumeaux dizygotes, dans notre jargon, ça veut dire les faux jumeaux. Voilà, on a un schizophrène, on apprend qu'il a un faux jumeau ou une fausse jumelle. Bon, alors à ce moment, la probabilité, elle est de 17%. Alors, faux jumeau, ça veut dire, ou dizygote, ça veut dire, comme son nom l'indique, dizygote, ça veut dire qu'il y a deux œufs. C'est-à-dire, finalement, les deux ovaires ont donné simultanément des ovules, fécondation, par deux spermatozoïdes, donc, c'est jamais que des frères-sœurs, quoi. Ça peut être deux frères, ou deux sœurs, ou un frère, une sœur, peu importe, mais ils n'ont pas plus de proximité génétique que des frères et sœurs. Ben, il n'empêche que, voilà, on a 17%. Les parents, 6%. Alors maintenant, c'est là le point essentiel, si maintenant on considère les jumeaux monozygotes, comme son nom l'indique, ça veut dire, qui sont issus du même œuf, c'est ce que je vous ai expliqué avec les sœurs Germain, monozygotes, ça veut dire, vous avez un œuf, cet œuf se divise en deux cellules, et ces deux cellules, au lieu de rester accolées, elles sont écartées un petit peu. À ce moment, elles vont se diviser pour leur propre compte, et ça donne deux embryons, et au finish, il manque une génération de cellules, il y a un mécanisme qui fait que, on se divise une fois de plus, et ça redonne autant de cellules, et puis voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il n'empêche que, entre un dizygote et un monozygote, il y a une sacrée différence. Hein. 17, on passe à 48%. C'est une chance sur deux. Alors là, forcément, le monozygote, il a, comme je vous le disais pour les sœurs Germain, il a forcément les mêmes gènes. C'est-à-dire, il y a un œuf fécondé par un spermatozoïde et il a forcément le même environnement utérin. Ça, c'est absolument certain. Et puis, probablement, le même environnement familial. Alors, vous connaissez les histoires de jumeaux, c'est extraordinaire, les études des jumeaux. Les jumeaux peuvent être séparés, des monozygotes peuvent être séparés à la naissance, puis se retrouvent 20 ou 30 ans plus tard. C'est la plupart du temps, ils ont choisi les mêmes professions, il y a des choses mais incroyables. Alors ça, c'est pas bidon comme dans les années 30, hein, parce que... Un chercheur qui avait truqué les études sur les jumeaux, ce qui fait qu'on n'y croyait plus. Hein. Mais là, maintenant, c'est archi-prouvé, quoi, puisque c'est assez extraordinaire. On dirait qu'il y a presque des destins communs, quoi, de quelque chose, alors qu'ils sont à peine côtoyés. Ils sont côtoyés 9 mois, quoi, mais c'est tout, hein, in utero. Et ensuite, ils ont un peu la même trajectoire. Je pense à un reportage où on voyait deux vrais jumeaux qui se retrouvent, je crois, 25 ou 30 ans plus tard, et ils viennent tous les deux en costume professionnel, et c'est deux pompiers, alors qu'ils étaient à l'opposé des États-Unis, et ils avaient leur casse tous les deux, etc. Mais comme ça, là, dans l'émission, ça avait été incroyable. Il y a des congrès où ils se réunissent, les jumeaux, et ils se racontent toutes leurs histoires. C'est assez incroyable. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est ils ont vraiment, non seulement l'environnement, mais également les gènes qui sont communs et que donc, de ce fait, bien entendu, pour un biologiste, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a quelque chose de génétiquement programmé et que forcément l'environnement, lui aussi, va jouer un rôle. Alors, est-ce qu'on peut le modifier? On peut espérer, on peut, mais pour le moment, on ne sait pas comment déboguer, quoi, hein. Alors, peut-être je vais vous donner une typologie, c'est-à-dire un petit peu une grille. Alors, je ne sais plus si elle est toujours en service, mais pour ma part, je l'ai connue en 87, à Vignettier. C'est dans le service où je travaillais, c'était beaucoup utilisé. C'est la classification de Crowe. Voilà, alors. Cet auteur, donc, il a publié plusieurs articles pour proposer de classifier les schizophrénies, utilise des types, type 1, type 2. Voilà, donc vous avez ici, donc voilà les symptômes caractéristiques. Pour le type 1, ce sont des symptômes positifs plus des mouvements anormaux. Et puis pour le type 2, seulement ce sont des symptômes négatifs, absence de mouvements anormaux. Voilà, donc deux critères. Alors, que veut dire positif ou négatif? Positif, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent en plus que la normale, si vous voulez. Hein. Si on raisonne sur la pathologie, forcément, on a une espèce de référence. Alors, je ne sais pas si c'est nous ou si c'est une population témoin ou je ne sais quoi. On se prend comme référence. Bon, on fait telle ou telle chose ou on perçoit telle et telle chose dans une certaine situation. Certains perçoivent plus, comme des hallucinations, par exemple, ou bien, si on va plus loin, des délires, alors qu'il n'y a pas de raison de penser que... Parce qu'on voit une voiture blanche, ça veut dire que notre patron nous envoie un message qui veut dire qu'il faut couper le courant, quoi. Hein, je sais pas, enfin, mais bon, voilà, typiquement de ce qu'un schizophrène qui est à la fenêtre peut percevoir. Puis si c'est une voiture rouge qui passe, alors à ce moment, bon voilà, il est productif. Et donc c'est en plus. Donc à ce moment, et que si en plus, quand il voit cette voiture rouge, tout de suite, il est flippé, etc. Donc, des bouffées d'angoisse, ben, à ce moment, hein, il a des comportements assez anormaux. Voilà. D'après Crew, on a le type A. Par contre, vous avez d'autres patients qui, eux, ont plutôt des symptômes négatifs. Et négatif, ça veut dire que c'est en creux. C'est-à-dire, c'est pas comme le témoin bon, où rien ne se passe, où. Une empathie ou je ne sais quoi. Non, c'est un retrait. Voilà, ce qui est négatif, c'est le retrait ou une inhibition. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas comment parler, alors bon, on va se contorsionner, rougir ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est plutôt ce qu'en physiologie on appelle l'inhibition. Mais il n'y a pas de comportement anormal. Voilà, donc ça, c'est pour les symptômes. La maladie, à ce moment, ici, c'est une schizophrénie en aigu, c'est-à-dire, bon, ça vient de se produire, c'est grave, mais il faut intervenir. J'essaie de raisonner comme un stagiaire de psycho, hein, voyant agir les services psychiatriques, quoi, hein. Oh, bon, il faut intervenir le plus vite possible, parce que si on n'intervient pas, à ce moment, la structure peut se décomposer complètement. Voilà. Mais ça reste... en aigu, c'est-à-dire c'est ici et maintenant que ça se passe, peut-être qu'on peut calmer le jeu. Par contre, si la structure n'est pas soignée comme on sait le faire un peu contenu, disons, pour faire simple, alors à ce moment, la structure peut très fort, la structure psychique, je veux dire, hein, la psyché peut se dégrader fortement et à ce moment, on change de nature, on passe de type 1 à un type 2. Voilà. Et à ce moment, c'est ce qu'on appelle une schizophrénie chronique. Bon, c'est ce que dans les services de psychiatrie, je ne sais plus maintenant, ça a tellement évolué que peut-être on en reparlera, on les appelle les chroniques, c'est-à-dire, bon, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'institution, et puis ils errent dans les couloirs, etc. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas trop quoi faire, si ce n'est garder le statu quo, en gros. Et c'est très difficile à les remettre dans le circuit de la vie ici. Alors, à ce moment... Selon ces deux types, vous devez à peu près cerner, accessibilité aux neuroleptiques, voilà, bonne, et puis dans le type 2, très inconstante, presque par définition, parce que s'ils avaient été bons, ils n'auraient pas passé dans le type 2. Le pronostic, eh bien, c'est que c'est réversible, pas de déficit intellectuel, c'est-à-dire si la structure n'est pas... trop décomposés, alors à ce moment, ben leur intelligence n'est pas touchée, simplement ils vont peut-être continuer à avoir quelques hallucinations, mais ces hallucinations, on va pouvoir les bloquer, par les neuroleptiques, non, par définition, alors qu'ici, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, et ça se traduit par un déficit intellectuel qui vient renforcer les symptômes négatifs, bien sûr, hein, c'est-à-dire bon, les benets, quoi, en gros, hein, c'est-à-dire, bon, par force. Alors, là, les psychiatres les appellent les chroniques. Et les anomalies postulées, ben voilà. Donc ici, c'est une hyperdopaminergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que les chaînes de la dopamine s'emballent, en quelque sorte. C'est-à-dire une production de dopamine énorme, d'où le nom de hyperdopaminergie. Augmentation du nombre de récepteurs des deux comme dopamine, hein, mais le deuxième récepteur, il y en a 5 au moins, D1, D2, D3, D4, D5, donc c'est surtout le D2 sur lequel vont jouer les neuroleptiques, on va voir, dans une perspective dualiste, D1, D2. Et puis, dans le type 2, donc quand on devient chronique, alors à ce moment, hélas, c'est ça, le corollaire de la décompensation de l'appareil psychique, C'est une décomposition qui est due à la mort des cellules à dopamine. Donc, forcément, on a une dépopulation neuronale, c'est-à-dire qu'il y a moins de neurones. S'il y a moins de neurones, forcément, on comprend que les réseaux neuronaux ne peuvent plus traiter les informations, et du coup, ça amène, on va dire, un QI qui tombe, quoi. Hein. C'est-à-dire, bon, l'intelligence s'estompe, quoi. Voilà, ça vous donne une petite idée. J'ai un schéma qui reprend les mêmes choses, mais peut-être en plus dynamique. Donc, je vous le montre pour voir si... Donc, voilà, syndrome de type 1, schizophrénie aiguë. Donc, alors, bien sûr, il y a des bouffées délirantes, presque par définition, hein, des hallucinations et des bouffées de délire. Schizophrénie paranoïde, au stade initial, à symptomatologie positive exclusive. Il n'y a que du plus. Les évolutions possibles, ben, c'est que justement, si on ne traite pas ou si le traitement ne se trouve être pas efficace, ben, à ce moment, on va avoir tendance à passer dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire type 2, et devenir non plus aigu, mais chronique. Et à ce moment, plusieurs possibilités. Donc, ça vous donne une schizophrénie chronique, mais déficitaire, par exemple. Alors bon, dans les déficitaires, donc déficitaires sous le sens de l'intelligence, hein, en gros, et même de la possibilité de communication et autres, là ça rejoint une question que j'ai eue hier, la semaine dernière, donc l'ébéphrénie, ébéphrénos, donc vous reconnaissez la racine de l'esprit, et puis ébé, c'est la déesse de la jeunesse, donc c'est donc des personnes qui restent des enfants, quoi, en gros, c'est-à-dire que leur vie ne se développe pas. Alors, la même chose, mais avec en plus des catatonies, blocage, ou bien carrément catatonique. Donc voilà, on a les deux extrêmes, là, de rester rigide, en quelque sorte, comme une statue, si vous voulez, puis éventuellement un stade intermédiaire. Asymptomatologie négative prévalente, par exemple. Et puis, troisième catégorie, productif paranoïde, asymptomatologie mixte, négative et positive, avec le passage de l'une à l'autre, des mutations sont possibles, quoi, en gros. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de comment les psychiatres se représentent un petit peu leurs patients qu'ils ont, dans un premier temps, j'ose pas dire étiqueté, mais enfin ça revient un petit peu à ça, identifié, diagnostiqué comme schizophrène. Alors après, il y a plusieurs possibilités, et puis, bon, alors, ouais, c'est leur art de pouvoir essayer de faire qu'ils aient une vie qui soit, je veux dire, le plus confortable possible, le moins douloureuse possible, mais c'est quand même pas gagné.
Ces tableaux concernent que la schizophrénie.
Oui, c'est l'exemple. Oui, mais la psychose est composée de plusieurs blocs, schizophrénie, psychose maniaco-dépressive un peu plus loin, mais surtout paranoïa. Mm-hmm. Et là, c'est une classification de la schizophrénie. Vous avez plusieurs catégories, là. Je crois pas, non. Anosognosique, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de leur état. Hein? C'est ça, dans le sens. Donc, non, je crois pas. Simplement, ils ne peuvent pas peut-être l'exprimer, mais quand ils vont mieux, après ils peuvent dire, oui, mais dans cette situation, je pensais que ceci, cela. Ils peuvent revenir sur ce qu'ils ressentaient, les hallucinations qu'ils pouvaient avoir, ou les délires même qu'ils subissaient. Donc, on ne peut pas dire qu'ils étaient anosognosiques. Non, je crois que la plupart du temps, dans les maladies mentales, les sujets sont conscients de ce qui leur arrive. Simplement, c'est plus fort qu'eux, et ils ne peuvent pas ne pas, mais même, pour moi, ma conviction, même avec des patients Alzheimer, ils sont conscients de leur état. Et là, on le voit dans le regard, en l'occurrence, là, pour les Alzheimer, c'est sûr qu'ils coulent à pic dès que vous les mettez en échec, dès la deuxième fois, et la troisième fois, c'est évident qu'ils savent déjà comment ça va se mal passer. Quoi. Donc, non, je crois que l'appareil psychique a tellement de niveaux qu'il y a toujours un niveau qui quand même garde un certain point de vue sur la situation, même si ce point de vue n'est pas du tout opérant. Enfin, moi, c'est comme ça que je me les représente. Mais peut-être qu'il y a des témoignages qui peuvent donner d'autres... Alors là, je ne sais pas si je me lance là-dedans. Ce serait bien de peut-être dire deux mots sur ce que la psychiatrie fait actuellement par rapport à ces diagnostics. Alors, bon, le temps passe très vite, mais quand même peut-être deux mots sur le DSM 1, 2, 3, 4, peut-être. Pour faire très 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 simple et rapide, dans les années 50, les psychiatres américains se sont un peu réunis pour tomber d'accord qu'il y avait beaucoup de théories et que c'était très difficile d'avoir des explications rationnelles des maladies mentales. Et que si on a des points de vue très différents, il n'y a pas moyen de comparer pour faire des statistiques, en gros. D'où l'idée d'essayer de bâtir une classification des maladies mentales en faisant abstraction le plus possible des différentes théories qui étaient en opposition, d'où le nom de DSM-3 qui veut dire D, c'est disease, c'est les maladies, alors le M c'est mental, les maladies mentales, mais par des études statistiques. Donc ils essayaient de trouver qu'est-ce qu'il y avait de commun dans tout le fatras qui commençait à apparaître. Donc ça a donné le DSM-1. Bon, bien entendu, c'était boiteux, donc ils ont utilisé ces classifications pendant 10 ans. 10 ans plus tard, ils sont réunis, ça a donné naissance au DSM-2. Voilà, alors bon, en gros, dans ce DSM-2, il y avait encore les névroses et les psychoses, et puis tout un tas de choses, quoi, l'apport freudien. Et puis, dans les années 70, comme vous devez le savoir, il y a eu un fort mouvement gay, alors si je reste avec le terme américain, et ces mouvements gays ont refusé l'acceptation de Freud en disant voilà, l'homosexualité c'est une perversion. Et puis donc on n'est pas malade, on n'est pas fou, je ne sais pas quoi, enfin bon, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et puis progressivement, je ne sais pas par quel miracle, mais enfin beaucoup de psychiatres étaient gays. Et donc, quand il y a eu majorité, bien entendu, il y a eu besoin d'aménager le DSM-2 en DSM-3. Voilà, alors bon, on aime l'écrire la DSM-3, la guerre de Troie, quoi, en gros, hein, et en fait, c'est pas tout à fait, c'était pas la belle Hélène, là, hein, donc. Et donc, ces psychiatres gays, ont complètement bouleversé l'échiquier, hein, en faisant un putsch, et en particulier, en démolissant toutes les théories freudiennes. Enfin, pas en les démolissant, en les négligeant. Voilà. Ce qui fait que dans le DSM-3, il n'y a pratiquement plus le terme de psychose et encore moins de névrose, etc. Ce qui fait que, bien entendu, ça donne des choses qui sont un peu étonnantes pour un freudien, en tout cas. Et puis, ça, c'est les années 70 à 80, et 80 à 90, nouvelle mouture, DSM-4, là, c'est encore pire. Alors, je vais vous lire... Non, j'ai le DSM-3, je vais vous en lire un petit bout pour vous donner l'idée de comment on fait des classifications. Et je vous dis, l'idée est bonne, c'est de donner le minimum syndical pour dire, voilà, c'est une psychose, pour qu'on puisse comparer d'un pays à l'autre, ou d'une culture à l'autre, ou de je ne sais quoi. Simplement, on ne sait plus du tout à quoi riment les symptômes, quoi. Alors, je vous donne... Alors, c'est écrit très fin. Je ne sais pas si je vous le lis au tableau ou au pipi. Je vais peut-être essayer l'un, mais c'est tellement fin que... Mais si je le fais en grande quantité, je vais mettre 10... Voilà, alors, je vais essayer de vous le lire sans être trop partisan, mais enfin, vous comprenez que... C'est un petit peu dur à digérer. Critère diagnostique d'un état schizophrénique. Le schéma diagnostique qui suit est extrait du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-3, d'American Psychiatric Association. L'entente.
au moins l'une des manifestations suivantes au cours d'une phase de la maladie. Au moins une, et il y a 6 cas possibles. Donc voilà, vous pourrez vous rentrer dans une catégorie éventuellement. Premièrement, idée délirante, bizarre, le contenu est manifestement absurde et n'a en fait aucune base réelle possible, telles des idées délirantes d'influence, une divulgation de la pensée, des pensées imposées, un vol de la pensée. Ou bien, deux, idées délirantes somatiques, mégalomaniaques, mystiques, nihilistes, ou autres idées délirantes sans contenu de persécution ou de jalousie.
Ou bien, vous avez le choix, c'est à la carte en quelque sorte, hein, comme chez Bocuse.
Trois, idées délirantes de persécution ou de jalousie, à condition qu'elles soient associées à des hallucinations de n'importe quel type. Quatre, hallucinations auditives dans lesquelles une voix commente en permanence le comportement ou les pensées du sujet, ou dans lesquelles deux ou plusieurs voix conversent entre elles. 5, encore, une autre possibilité, hallucination auditive répétée dont le contenu n'est pas limité à une ou deux paroles et sans relation apparente avec une dépression ou une euphorie.
Ou enfin, dernière catégorie, alors c'était pour le DSM-3, je vais faire la même chose pour le DSM-4,
6, incohérence, relâchement net des associations, pensée nettement illogique, ou pauvreté marquée du contenu,
là vous sentez le négatif, là, qui commence à apparaître,
du discours, s'ils sont accompagnés d'au moins une des manifestations suivantes. Petit a, affect émoussé, abrasé ou inapproprié. B, idée délirante ou hallucination. Petit c, comportement catatonique ou grossièrement désorganisé.
Voilà, vous reconnaissez quelques éléments, mais bon, ça n'a plus de sens, quoi, en gros, mais bon.
Alors, ça c'était au moins l'une de ces manifestations. Voilà, 1 à 6. Et puis, B, détérioration à partir d'un niveau de fonctionnement antérieur.
Le sujet étant son propre témoin, on demande aux proches de décrire comment il était avant, puis là, ben, on l'a sous le nez, alors on compare avec ce qu'on voit maintenant.
Détérioration à partir d'un niveau de fonctionnement antérieur dans des domaines tels que le travail, les relations sociales et les soins personnels. C, durée, des signes permanents de la maladie pendant au moins 6 mois à un moment quelconque de la vie du sujet, avec présence actuelle de certains signes de la maladie. La période de 6 mois doit comprendre une phase active pendant laquelle étaient présents des symptômes cités ci-bas, avec ou sans phase prodromique ou résiduelle définie comme suit,
etc., etc. Bon, vous avez compris que il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour pouvoir dire oui ou non, parce que c'est ça le problème, hein, c'est que constamment vous avez à répondre oui ou non à un arbre décisionnel. Et donc, si ce n'est pas un psychiatre, ben bien sûr c'est une infirmière psychiatrique. Puis maintenant c'est encore trop cher les infirmières psychiatriques, alors on demande aux ASH. Et puis, bientôt, on demandera aux femmes de ménage de simplement, en voyant le sujet, on dire, bon, voilà, comment on répond. Bon, eh bien, c'est bon. Donc, ça veut dire que c'est un travail d'ordinateur qui tient plus compte de ce qu'est le sujet dans son monde, etc. Bon, voilà, en gros, c'est presque caricatural. Quoi, hein, en gros. Alors, je vous le dis quand même pour vous, puisqu'on l'a là. Phase prodromique, détérioration nette du fonctionnement avant la phase active de la maladie, non attribuable à une perturbation de l'humeur ou un trouble lié à l'utilisation de substances toxiques et impliquant au moins 2 des symptômes cités ci-dessous. Phase résiduelle, persistante après la phase active de la maladie, d'au moins 2 des symptômes cités ci-dessous, non attribuable à une perturbation de l'humeur ou un trouble lié à l'utilisation de substances toxiques. Bon, donc ça vous donne l'arbre décisionnel, qui est donc typique de la... Oui, parce que ça continue, il y en a encore toute une partie, mais une fois qu'on a compris deux ou trois choses, voilà.
Vous avez la première question, puis vous répondez... vous attaquez la première question, ou bien vous répondez oui, puis à ce moment
vous allez à une autre page,
ou bien vous répondez non, à ce moment nouvelle question, ou bien vous répondez oui, et puis ça vous donne cette case, ou bien vous répondez non.
C'est que vous avez un système modulaire qui fait que, bon, voilà, vous arrivez à vous orienter si c'est pendant 15 jours ou si c'est pendant 6 mois que ça se manifeste. Alors à ce moment, vous devez répondre oui ou non, etc. Voilà, bon. Et bien entendu, vous commencez à comprendre comment remplir des QCM, et non comment ça finit par des cartes perforées, quoi. C'est le système. Voilà, alors là, ce que devient le sujet de son esprit, je ne sais pas, il est complètement vidangé, quoi, en gros, c'est-à-dire c'est comme un rat de laboratoire, quoi. Enfin bon, pour introduire tout ça, c'est ça, quoi. Voilà, vous avez tous les arbres de décision, là, c'est assez désopilant quand on lit le DSM machin, parce qu'on est complètement dénaturé par rapport à la psychiatrie. C'est-à-dire c'est une psychiatrie de bas étage qui amène à ce que vous voyez quoi, tous les jours. Hein, c'est-à-dire, en gros, les services de psychiatrie sont vidés de leurs patients. C'est-à-dire, il y a un harcèlement pas possible sur les médecins-chefs pour qu'ils ferment les lits, quoi, en gros. Donc, pour qu'ils sortent, ces patients, ben, ils sortent, quoi. Et comme on l'a déjà dit, je crois, un tiers sont SDF, donc, et puis un autre tiers sont dans les prisons, au moins. Et si ce n'est pas 50% de SDF, 50% en prison. Et donc, du coup, ce ne sont plus les psychiatres qui prennent en charge, ce sont soit les compagnons d'Emmaüs ou le je ne sais qui, d'une part, les assistantes sociales, etc., ou bien dans les prisons, ce sont les matons, et puis les psychiatres qui font des vacations, et qui, non, le seul rôle, c'est de faire des ordonnances pour que les matons puissent distribuer les pilules, quoi. En gros, enfin, bon, je caricature à peine, je crois. Alors, bien sûr, il y a toujours le premier épisode psychotique qui mériterait d'être un peu approfondi, mais bon, c'est, en tout cas, quand on s'intéresse à la clinique, c'est toujours chercher qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du traumatisme, et je crois que ça va prendre trop de temps si je rentre dans ces éléments. Je vais peut-être plus me rapprocher maintenant d'essayer de voir comment on manœuvre les neuroleptiques, si vous voulez, en vous donnant des listes qui viennent de Zarifian, du rapport Zarifian, hein, 96, pour un petit peu éclairer la lanterne. Voilà, alors donc, si on prend maintenant sous un autre angle, hein, Zarifian a eu accès à toutes les données, puisque c'était le premier ministre de l'époque qui l'a chargé de faire un rapport sur les psychotropes. Et donc, ce qui était impossible d'avoir auparavant pour des raisons de secret médical, secret professionnel, secret défense, secret je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, c'était impénétrable. Là, l'Edgar a eu accès, et à ce moment, il l'a publié, et donc, ben voilà, en gros, parmi tous les médicaments, les psychotropes représentent 11,3%. Voilà, si ceux qui veulent vérifier, hein, prenez le Vidal et puis regardez, tout ce qui est psychotrope, vous allez voir, ça fait un tout petit peu plus de 10% de tout ce qui n'est pas psychotrope. Alors, parmi les psychotropes, si on regarde, les tranquillisants, 7,3%, les hypnotiques, 3,6%, les antidépresseurs, 2%, les neuroleptiques, 0,7%, les sédatifs, 0,4%, les psychostimulants, 0,2%. Alors ça, c'est uniquement ce qui est dans le Vidal, enfin, ce qui est de l'ordre de médical. Hein. Il y a tous les psychotropes qui sont illégaux, ou même ceux qui sont légaux. Je pense à l'alcool, le tabac et beaucoup d'autres choses. Maintenant, si on prend donc la catégorie qui nous intéresse, donc c'est une toute petite proportion, mais forcément, si les psychotiques sont 1% de la population, ça ne peut pas faire des médicaments à tour de bras. Donc c'est cohérent, là, 0,7 et 1%. Mais si on prend les neuroleptiques, alors à ce moment, Zarifian insiste sur le fait que les neuroleptiques ne sont jamais prescrits seuls. Il y a toujours une cohorte de substances. Donc, que voilà. Donc, co-prescription des neuroleptiques avec des anxiolytiques, 50%, quoi, hein, 1 sur 2, quoi. Hein. Bon, donc, la plupart du temps, c'est pas simplement le neuroleptique, mais c'est un neuroleptique plus un anxiolytique, c'est-à-dire quelque chose qui lutte contre les angoisses. Antidépresseur, 42%. Hypnotique, 29,5%. Autre neuroleptique, 12%. Antiparkinsonien, 23,5%. On va voir pourquoi, bien sûr, c'est les effets secondaires des neuroleptiques. Voilà, ça c'est encore des chiffres. Alors, on discuterait peut-être des comment on a obtenu ces chiffres. Je vous le donne juste sous la forme caricaturale qu'il publie.
Ça, c'est très difficile à comparer. Parce que
on compare vite des choux et des carottes. Or, ça, dans la méthode scientifique, on a une sainte horreur de mélanger les choux et les carottes. Mais on a un moyen de s'y retrouver, c'est de dire, ben, ce sont des légumes. Alors, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a de la bidoche. Bon, alors, voilà. Donc, en gros, voilà, on va étudier la classe des neuroleptiques, N5A, en 93, en Europe. Et la façon de calculer, c'est en unités fractionnées. C'est-à-dire, en gros, pour faire très simple, c'est le nombre de comprimés qui est prescrit. Alors, on compare quelques-uns des pays européens. On a des populations différentes. Donc, il faut absolument faire le rapport entre le nombre d'unités fractionnées et la population, et c'est donc ce qu'on appelle le ratio, c'est le rapport entre UF sur population. Par habitant, et là encore une toute petite restriction, c'est par habitant de plus de 15 ans. On considère qu'ils sont adultes, mais... Voilà. Alors, si on prend... Alors, voyons voir où est-ce qu'on se situe, nous, voilà, ici. Voilà. Alors, le ratio est de 9,1. Alors, 9,1, bien entendu, on va le comparer aux voisins. Alors, en comparant le premier, là, voilà, 9,1, l'Allemagne de l'Ouest, à cette époque, 7,4. Bon, ça fait déjà un petit écart. La Belgique, qui est proche de nous, hein, les mitoyens, 6,9. L'Espagne, qui est mitoyenne aussi, 6,8. Le Danemark, qui est un peu spécial, lui, il fait plus fort. 11,6. Allez savoir pourquoi. Bon, mais alors, bon, bien sûr, ils sont plus au nord, et donc ils ont moins d'ensoleillement. Je sais pas pourquoi, bon. Okay. Mais, la Grèce, 5,9. L'Italie, 3,4. Alors, bon, je veux bien qu'il y ait des différences entre la France et l'Italie, mais quand même. Quand même. Comment c'est possible que l'on ait trois fois moins de consommation, de prescription de neuroleptiques, trois fois moins en Italie qu'en... Alors c'est vrai que vous allez en Italie, tout de suite vous comprenez, quoi. Hein. Bon, la pasta, je ne sais pas quoi, et vous revenez en France, il n'y a que des morts vivants dans ce putain de pays. Ça, c'est vrai que tout de suite ça vous fait un choc, et vous dites, bon, il y en a plein qui sont délirants, quoi, probablement, hein. C'est... Même au plus haut niveau de l'État, on se dit là. C'est sûr. Mais alors, ils sont pourtant bien servis, hein, en Italie, avec Berlusconi. Là, c'est sûr que. Bon, voilà. Alors, si on remonte au nord un peu, Pays-Bas, 3,3. Voilà, bon. Même en Suisse. Bon. Il se fracasse pas, mais c'est quand même deux fois moins, quoi. Hein. Bon, il y a un malaise, quoi, hein, c'est sûr. Hein. Comment c'est possible? Alors, pour ma part, je connais une seule réponse. C'est vrai, plus on monte au nord, dans ma jeunesse, je suis monté au nord, à l'est et au sud, mais bon. Plus on monte au nord, ce qui est caractéristique, c'est que même tâche dans la rue ou ailleurs ou dans un restaurant, plus vous montez au nord, plus il y a de monde pour faire la même tâche. Je ne sais pas si vous avez fait ces études statistiques, mais c'est incroyable. Quand vous arrivez dans Scandinavie, pour faire le même travail qu'une personne en France, vous avez 5 personnes. Si cette observation était juste, forcément, ils sont 5 fois moins speedés que nous, quoi. Alors nous, on a le pompon. Le pompon, c'est le pompon de la productivité, paraît-il, hein. Ben, forcément, la productivité, elle doit se payer par quelque chose. Alors, bon, je ne sais pas si ça joue dans la psychose, mais bon, il y a déjà des petites différences de mœurs. Mais je connais la réponse pour au moins une partie de la réponse avec ce chiffre-là, avec le Royaume-Uni. Voilà, j'ai un bon ami qui est british, et qui m'expliquait. Il me dit, mais je ne comprends pas le système français. Ah bon, quel est le système britannique? Ben, c'est simple. Vous habitez un endroit, donc ipso facto, vous êtes affecté à un médecin. Vous faites partie d'un district, et puis vous ne pouvez pas changer. Voilà, hein. Bon, tombez bien, c'est bien, ou tombez mal, ben tant pis. Voilà. C'est-à-dire, c'est libéral, mais pas trop, hein, apparemment. Pas pour tout, en tout cas. Hein. Ultra-libéral, mais pas pour la médecine. Alors bon, donc, ben, vous avez un symptôme, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez pour prendre un rendez-vous. Vous tombez sur la secrétaire vous dit oui, bien sûr, vous faites bien partie de la clientèle du docteur machin, mais alors, bon, vous savez que ça va être long quand même, hein. Ah bon, combien? Ah ben dans 3 mois. Bon, alors forcément, il y en a qui meurent, quoi. Trop de temps, hein, c'est forcément. Hein. Bon, les 3 mois se passent, plus ou moins bien, mais enfin ça passe. Alors vous avez la consultation. Consultation normale, quoi. Bon. Et puis vous avez une prescription. Jusque-là, rien à redire. Et, toujours d'après mon ami Tim, une fois que vous avez votre ordonnance, alors, admettons que ça soit 3 doses matin, midi et soir pendant 8 jours. Voilà, c'est écrit comme ça, quoi. Hein. Alors, vous allez chez l'apothicaire. Alors là, à ce moment, l'apothicaire met ses lunettes et puis lit le machin, vérifie que vous êtes bien dans le bon district avec le bon médecin, je ne sais pas quoi, et dit 3 fois 8, 24. Bah, il va chercher 24 pilules, c'est tout, quoi. Il vous en met pas 3 coffrets, quoi. Et que donc, probablement, du côté de l'emballage, il y a peut-être des choses à revoir en France, quoi. Hein, parce que, bien sûr, quand on a les chiffres, c'est globaux, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a sur les registres des pharmaciens et des boîtes pharmaceutiques et tout. Et que donc, du coup, forcément, il y a des gabegies, quoi. Tout le monde sait qu'il y a des tonnes de boîtes qui traînent et qui sont, Dieu merci, pas consommées. Mais alors, à ce moment, ça va alimenter ou bien un travail souterrain, ou dealer, quoi, en gros, hein, ou bien éventuellement l'automédicamentation. Et qu'à ce moment, ben, vous avez des perditions et tout. Alors, bien sûr, il y a pire, quoi, hein, c'est que les hôpitaux sont finalement des lieux d'expérimentation et hontés. Les hôpitaux français, je veux dire, tout simplement parce que étant sous la couverture de la sécurité sociale, les groupes pharmaceutiques américains, pour ne pas les nommer, poussent à ce qu'il y ait une expérimentation en grandeur nature pour avoir beaucoup de chiffres, pour avoir tout un tas de choses. Enfin voilà, ça pose des questions immenses. C'est-à-dire, notre sécurité sociale, qui n'en peut plus avec ses trous qui sont insondables, eh bien, elle vient en quelque sorte favoriser une surconsommation qui est pratiquement pas réfrénée, probablement. Je ne sais pas si les gens se gavent, mais quand même, enfin bon, ça pose problème, quoi, disons. Bon, je ne veux pas insister plus pour garder un peu de temps pour vous expliquer le mécanisme d'action. Alors, dans l'historique, j'en étais à Delay 2015, et ils avaient, dans leur classification, bien défini l'action des neuroleptiques. Alors, je vous le redonne, si je ne l'ai pas vraiment fait. Qu'est-ce que, pour eux, était un neuroleptique? Eh bien, un neuroleptique, c'était une substance chimique qui avait une action psycholeptique sans action hypnotique. C'est le premier paramètre. Deuxièmement, action inhibitrice à l'égard de l'excitation, vous vous rappelez, là, le premier service de Delay, l'agitation, l'agressivité et réduction des états maniaques. 3. Action réductrice de certaines psychoses aiguës ou chroniques et des psychoses expérimentales. Bon, alors ça, psychose expérimentale, c'est, Dieu merci, chez l'animal. Mais bien sûr, donc on provoque des psychoses expérimentales chez l'animal, et puis pour savoir si c'est potentiellement un neuroleptique, ben on essaye de les réduire. Il y a un hiatus entre l'animal et l'homme, quoi. Et donc, ça vous donne une petite idée de comment on procédait dans les années 57. Et on continue de la même façon. Ça s'appelle la pharmaco. Importance des manifestations psychomotrices, neurologiques et neurovégétatives. Voilà, c'est-à-dire, déjà en 57, ils avaient repéré les effets secondaires des neuroleptiques. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul produit que vous pouvez prendre et qui ne vous donnera pas d'effet secondaire. Et encore, ça dépend de la quantité. C'est l'eau. Dès que vous êtes en dehors de l'eau, de toute façon, vous avez un effet principal qui est recherché et vous avez forcément des effets secondaires qui... Sinon, j'ose pas dire que c'est de l'homéopathie, mais enfin, c'est plutôt l'effet placebo, quoi. Hein. Donc, forcément, vous avez des effets. Et si vous modifiez les chaînes métaboliques, forcément, ça va avoir un impact. Voilà, ben, voilà, c'est clair et net, là. Des manifestations psychomotrices, neurologiques, neurovégétatives, vous pouvez vous y attendre. Alors, prédominance d'action sur les centres sous-corticaux, ça, c'est... Je crois qu'on peut le laisser tomber. Hein. C'était comme ça que Deleuze et Nicaire se le représentaient. Mais maintenant, restons-en aux quatre premiers points et on va les illustrer. Alors, avant que quand même j'illustre, je voudrais vous familiariser avec les neuroleptiques eux-mêmes. Et pour ça, voilà la liste de ceux qui sont apparus. Alors, je vais essayer de vous le redonner. Voilà, donc... Le tout premier, 1952, c'est la chlorpromazine. Ça, c'est le nom chimique, mais le nom que tout le monde connaît, c'est celui qui est pharmaceutique. C'est le nom du médicament, c'est le largactyl, c'est-à-dire, comme vous rappelez, une substance qui a un large spectre, une action très large. 1952. 54, le serpazyl, la réserpine, en un mot, qui est l'herbe à serpent de la médecine hindoue, ou indienne plutôt, et puis encore 2 ans se passent, 56, le thémantyl. 57, ça s'accélère, parce que bien entendu, ça ouvre des perspectives, donc les différents groupes cherchent à déposer des brevets, donc cherchent des molécules proches et qui donnent les mêmes effets pour pouvoir saturer le marché, et ça vous donne Plégécil, Plégécil et Nosinan. Voilà, alors on va garder donc le largactyl d'une part et le nosinan. Le nosinan, c'est vraiment un truc qui vous abat un bœuf. Hein, voilà. Quand vous avez un grand agité qui arrive dans votre service, pas de souci, hein, sans qu'il y ait de médecin ni rien du tout, les infirmiers psychiatriques préparent une seringue et blum, c'est fait. On ceinture le patient et puis il est KO. Et c'est le lendemain matin qu'on commence à parler. Parce que autrement, bon, on n'en sort pas. Alors, 58, le théralène, chéri, là, bien sûr, hein. Alors on l'a mis sous forme de sirop, parce que ça plaît mieux aux enfants, et donc du coup, bon, il y a eu des générations d'enfants au théralène, pour tout un tas de raisons, mais bon, je ne veux pas trop m'étendre, mais quand même, comme c'est un des meilleurs antihistaminiques, forcément, bon... C'est pas étonnant qu'après il y ait des allergies, il y a tout un tas de trucs qui apparaissent chez les populations qui ont été gavées au théralène. Bon, voilà. Alors, ensuite, le mageptil, 60, meléryl. Bon, enfin, bon, vous arrivez à le lire, j'espère. Le 62, trilifan, aldol, le chouchou, là. Chouchou pour ceux qui font des bad trips. Bon, alors c'est sur un autre registre avec les gens qui prennent des hallucinogènes et qui, au lieu d'être dans le bonheur, sont dans les cauchemars. Eh bien, il y a une façon simple de tout bloquer, ces hallucinations qui sont terrifiantes. Ben, on prend de l'aldol et là, vous êtes plaqué au sol et tout va bien. 1963, noleptil, tripéridol, puis sédalande, escussos, primperan. Bon. Alors, tous ceux qui ont une petite étoile, ils sont aussi des neuroleptiques à action prolongée. C'est-à-dire, on a trouvé une façon de les mettre dans l'organisme de telle façon qu'ils soient distillés tous les jours à dose régulière pour, on va dire, les psychotiques qui ne peuvent pas penser de prendre leurs médicaments tous les jours. Donc, à ce moment, ils viennent une fois par mois au dispensaire, au CMP ou au CESO. Et puis, on leur fait une piqûre. Hein. C'est ça, c'est les NAP. Donc, ça permet de les faire ressortir plus facilement. Droleptan, phénactyl, moditaine, étumine. 67, dipipirone. 68, terfluzine et dogmatil. Alors là, bon, encore un chouchou, là, le dogmatil. Bien sûr, en 68... Il y a eu quelques perturbations, là, comme vous savez. Donc, bien sûr, l'année suivante, il n'y a pas eu de brevet qui soit déposé. Donc, on passe un tour. leptrine, vogalène, oxaflumine, puis on repart plus belle, modécate, émergile, opiran et cupertine. Alors là, on s'aperçoit que le pic, là aussi, hein, du nombre de brevets, c'est 64. Bon, j'ai mon pointeur qui m'emmerde. Hein. Bon, voilà, oui. Alors, vous voyez que c'est 64, et puis une bouffée un peu délirante, 71, puis après, ça va réduire terriblement, quoi. Bon, bon, plus grand-chose de nouveau sous le soleil, hein. On a des pépins, on va trouver d'autres choses probablement, hein. C'est-à-dire, les belles années des neuroleptiques commencent un petit peu le repli, la mer se retire, hein. Droleptan, phénactyle, moditène, étumine, dipipérone, dogmatine, bon, leptrine, vogalène, machin, bon, modécate, énergie, lopiran, écupertine, 72, psychyle, tertian, piportyl, CEMAP en 75, fluoxol, barnétyl, tripridal, prasinyl, puis boum, loxapac, encore un qui va rester dans la psychiatrie, agréal, motilium, puis plitican, etc. Voilà, bon, ben voilà. En 84, il y a 43 neuroleptiques. Alors, vous pouvez les oublier, mais je pense que la plupart de ces noms, au moins la moitié, doivent vous être plus ou moins familiers. Et on va voir que ce sont des molécules toutes les fois différentes, sinon on ne pourrait pas poser le brevet. Hein, donc. Et bien entendu, ils vont avoir toujours la même action antipsychotique, mais avec des effets secondaires un tout petit peu différents. Ce qui fait que le psychiatre a comme ça un orgue sur lequel il va pouvoir jouer, chercher la molécule qui conviendrait le mieux, c'est-à-dire amener toujours la réduction des hallucinations et du délire, mais sans avoir des effets secondaires qui soient insurmontables à gérer, quoi, en gros. Et forcément, c'est important d'avoir 43 possibilités. Mais bien entendu, ça demande un apprentissage, hein. Il faut pouvoir jouer sur l'orgue. Hein. Pas les médecins généralistes qui peuvent le faire, dans leur formation, ils n'ont pas plus que vous de connaissances, quoi, en gros. Hein. Simplement, eux, ils ont le droit de prescrire, puisqu'ils ont le vidal, boum, boum, ils tombent la tête sur le machin, boum, ça y est, c'est parti. Bon, alors, heureusement, ils manipulent pas trop les neuroleptiques. Mais, bien sûr, pardon. Oui, il y en a d'autres, mais bon, j'ai des vieux transparents, c'est toujours... Mais une fois qu'on a compris le système, procurez-vous un Vidal de 2009, pour ça il suffit de soudoyer un médecin généraliste qui soit assez proche de vous, parce que alors bon, ça fait 30 ans, enfin bon, j'ai un beau frère qui est généraliste, alors ça va de temps en temps, il me renouvelle mon cheptel, mais ça fait 30 ans que je cherche au puce les Vidal. C'est impossible à trouver. C'est le seul... Vous pouvez faire tous les bouquins qui disent tout ce que vous voulez. Il n'y a jamais de Vidal dans les puces. Hein. Ça veut dire que bon, les Français sont vraiment friands de ces trucs. Hein, là, parce que vraiment, c'est périmé d'une année sur l'autre. Hein, il y a même des mises à jour tous les mois, si vous voulez. Mais, bon, ça veut rien. On garde le truc. Hein, c'est comme le catalogue de Manu France. Hein, bon, alors bon, arrêtons de déconner. Prenons un tout petit peu plus de hauteur. Hein. Donc, il y en a toujours qui sont produits parce qu'il y en a beaucoup qui sont retirés. Hein. Pour des raisons simples, c'est que les brevets ne durent que, je veux, 20 ans ou 30 ans. Donc, forcément, après, ça devient des génériques et là, ça ne rapporte plus rien. Quoi, hein. Et plutôt que ça soit des Indiens qui les fabriquent, on flingue la molécule, on flingue le brevet. Je vous l'ai déjà expliqué, je pense. Et pour le flinguer, c'est simple. Tout ce qui avait été caché auparavant, boum, on ressort du tiroir. Oh, il y a un paquet de morts. Mais non, brum, ne parlez plus de ça, quoi. Hein. Ouh là là, la grippe va. Ouh ya ya. Même l'OMS s'y met à être complètement corrompu. Hein. Enfin, vous êtes au courant. Bon. Bon, si maintenant... Alors, vous avez vu qu'il y a au moins une cinquantaine de neuroleptiques. Alors maintenant, il s'agit de voir un peu... Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Eh bien là, on peut essayer de voir qu'il y a des familles qui se dessinent. Et en voilà quelques-unes. Les phénothiazines, c'est la première des familles, puisque c'est l'ergactyle. Voilà. Et puis Majeptine, Meléril, etc. Bon, peu importe. Et puis à côté, vous avez une autre famille qu'on appelle les butyrophénones, dont par exemple l'aldol est le chef de file. Et puis à côté, encore une autre famille, il y en a comme ça six, benzamide.
Je vais prendre le dogmatil, là, pas trop dogmatique, puisqu'il est sorti en 68. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Et puis le dibenzodiazépine, l'éponex, thiocentène, le fioxol, par exemple, et puis différentes familles, le loxapac, et voilà, vous demandez si on avait des nouveaux, voilà, le risperdal,
est un des, bon, il y a peut-être 15 ans, hein, qui est sorti, mais enfin bon, voilà. Donc on a plusieurs familles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait plusieurs familles? Eh bien, je vais vous les montrer, ces familles. C'est le jeu des sept familles, ou plutôt le jeu des petits cochons. Alors, vous connaissez le jeu des petits cochons. Vous faites, vous avez des dés, et il faut faire 2-6 simultanément pour avoir le droit à un corps de cochon. Hein. Voilà. Alors, voilà. Bon, ben, vous faites votre 6, ben voilà, vous héritez de cette famille phénothiazine. Et là, tout de suite, ce que vous voyez, c'est une structure avec trois cycles. Trois cycles, deux cycles benzéniques, celui-ci et celui-ci, et puis un hétérocycle, ici, dont les atomes ne sont pas des carbones comme dans les cycles benzéniques que vous avez ici, parce que quand on ne marque pas, ça veut dire C, ça veut dire carbone. Là, on a d'une part du soufre et là de l'azote. Voilà, alors ça vous donne un cochon. Qui est rose, si vous voulez, voilà. Et puis, vous avez un autre tirage possible, c'est votre concurrent, voilà, c'est le thioxanthène, voilà, ben c'est à nouveau un autre cochon, mais cette fois, voilà, il y a bien un soufre aussi, mais là, c'est une double liaison avec une chaîne, voilà. Et ou bien vous tombez sur un autre cochon, le butyrophénone. Voilà, alors, vous n'avez qu'un cycle, mais vous avez une chaîne un peu longue. Ou bien le dibenzothiazépine, voilà, celui-ci, ou bien les benzamides, ou bien le loxapac, par exemple. Alors, c'est pas le tout d'avoir un cochon. Vous continuez à jouer avec vos dés, et puis des fois, vous tombez sur un 1 ou un 4, bon, si vous avez encore un 6, alors vous avez droit à une oreille. Voilà. Et en chimie, on appelle ça un radical. Voilà. R1. Et puis, vous tirez encore, si vous avez encore un 6, vous avez droit à la deuxième oreille, ou, si ça vous intéresse, la queue. Alors, à ce moment, c'est un autre radical. Voilà, ici. Ou bien encore un autre, et puis, etc. Vous avez donc la possibilité de rajouter des éléments à votre cochonnet, et bien entendu, dès que vous avez mis un atome de plus, c'est plus la même molécule, et vous avez le droit de déposer un brevet, tout bêtement. Voilà. Et donc, c'est ça qui vous explique la grande quantité de molécules qui se présentent. On a 6 familles de base. Là-dessus, on peut rajouter des éléments. Si ça a un effet antipsychotique, alors à ce moment, on peut le soumettre à autorisation, à mise sur le marché. Voilà, en gros. Bien, vous avez donc compris qu'on a plusieurs possibilités. Alors, voyons un peu qu'est-ce que ça veut dire, ces radicaux. Alors, prenons la première famille. Enfin, une fois qu'on a compris, il n'y a pas besoin de vous faire de dessin. Voilà, les phénothiazines. Voilà, ici, dans nos cycles, trois cycles, dont un hétérocycle, ici, avec R1 et R2. Donc, ça, vous l'avez en tête. Et voyons ce que ça veut dire, R1 et R2. Eh bien, les voilà. R1, on a donc plusieurs possibilités pour faire le premier radical. R veut dire radical, hein, en chimie. R1, donc premier radical. Eh bien, ou bien on a cette chaîne-là, CH2, 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 N, CH3, CH3, ou bien celle-ci, CH2, CH, CH3, CH2, N, CH2, CH3, CH3, ou bien celle-ci, avec un cycle, un hétérocycle, avec deux azotes dedans. Voilà, ça c'est R1. Donc, vous voyez que R1, ça veut dire qu'on a au moins 3 possibilités qui vont marcher. Les 3 chaînes qui sont ici. Mais R2, alors à ce moment, on peut utiliser des radicaux plus fins, plus petits. un ou deux atomes. Alors, par exemple, le premier, ben, c'est le chlore. C'est elle, là, ici. Et à ce moment, les trois cycles, plus cette chaîne, plus le chlore, ça vous donne la chlorpromazine. Et c'est ça qui va être l'ergactine. Ou bien, un carbone avec trois fluores, CF3. Ou COCH3. Ou OCH3. Voilà. À ce moment, R1 plus chacun des deux, ça vous donne 5
possibilités, 4 possibilités. L'ergactine, cyclide, flégétine ou mofagine. Et puis, bien sûr, vous pouvez prendre la deuxième chaîne ici, et à ce moment, vous pouvez encore utiliser R2, mais cette fois un tout petit peu différent. Alors, les voici. Et à ce moment, ça vous donne le tertian, nutal, sergétine, nosinant, cette fois, les promazines, le théralène, le doxergant. Voilà. Et puis enfin, vous pouvez prendre cette chaîne ici, en rajoutant CF3 comme on l'avait trouvé ici, ou le chlore comme on l'avait ici, et ça vous donne encore
d'autres possibilités. Voilà. Alors bien entendu, comme nous avons d'autres molécules. Comme c'est une molécule un peu différente, ça vous donne la possibilité de faire un brevet, c'est ça qui intéresse le marketing, ou en tout cas la firme, mais bien entendu, ça va vous donner des effets un tout petit peu différents. Voilà. Aussi bien comme effet antipsychotique que effet secondaire, bien entendu. Tout naturellement, puisque ça va rentrer dans vos chaînes métaboliques. Non, mais il est attaché à la... C'est pas du chlore, hein, c'est un chloro-machin. Comme vous, vous prenez du chlore toute la journée, sous forme de chlorure de sodium, c'est pas la même chose que si vous inhalez du chlore. Hein, c'est une molécule, c'est pas l'atome. Vous voyez, c'est-à-dire, le chlore va être ici sur R2, mais c'est la chlorpromazine à ce moment. C'est-à-dire, bon, il y a une différence entre l'atome et puis la molécule, quoi. Mais la molécule comporte un peu de chlore. Oui. Attendez, avant je vous explique la mécanique de la chimie, puis après on va revenir à la clinique. Alors, bien sûr, une fois qu'on a cet ensemble de familles, les jeux des six familles ou des sept familles, et qui ont tous leurs radicaux différents, bon, c'est un bordel indescriptible, hein, parlant français, quoi, hein, vraiment. Et il a fallu le génie d'un chimiste qui s'appelle Jensen, qui arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors voilà ce que son raisonnement. C'est de reprendre chacune des familles et de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre toutes ces familles qui sont si disparates. Exactement comme si je vous regarde et il n'y a pas un de vous qui se ressemble. Il n'y a pas de vrais jumeaux. Mais par contre, il y a quand même des points semblables. Deux yeux, deux oreilles, deux narines, machin. Alors, c'est ce qu'il a essayé de chercher. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de commun? Et voilà ce qu'il a découvert. La principale famille chimique des neuroleptiques, ben voilà, la phénothiazine, qui compare les turbes antennes. Et bien là, à ce moment, il s'aperçoit qu'ici, on a un motif, on appelle un pattern, qui est commun. Voilà. Alors, il faut tortiller un peu, hein. Alors, je vous l'accorde. Mais bon, c'est indéniable qu'il y a quelque chose qui est commun. Alors, ensuite, butyrophénol, il retrouve ce même pattern. Et puis, diphényl-butyl-dipyrène, machin, benzamide, et tout. Et enfin, le dibenzothiazépine, pour lequel on n'aurait pas parié, eh bien, en faisant l'équilibriste, il est arrivé à retrouver le même élément. Moralité, eh bien, il a proposé une formule générale, qu'on appelle la formule générale de Jensen. Alors, la synthèse de la synthèse, c'est ça. Oh, c'est 1960 par là. Un ou deux ou trois. Voilà. Il s'aperçoit que n'importe quelle molécule que l'on appelle neuroleptique, qui a donc des effets antipsychotiques, eh bien, a toujours ce pattern d'un cycle benzénique ici, d'une façon ou d'une autre, deux atomes qu'il appelle alpha et bêta, c'est-à-dire peu importe ce que c'est, ça peut être du soufre, de l'azote, du carbone, de l'oxygène, ce que vous voulez, mais qu'ensuite, il y a toujours du carbone, un azote, avec deux liaisons avec l'hydrogène. C'est-à-dire c'est une amine, en gros, premièrement. Voilà, NH2, là, hein, si vous le lisez. N, et là, on n'a pas besoin de l'écrire, mais ça veut dire, pour un chimiste, ça veut dire c'est de l'hydrogène. NH2, c'est une amine donc, qui a un cycle benzénique, deux atomes indistincts, indifférents finalement, qui se terminent par une chaîne carbonée courte, CC, et puis NH2. Voilà. Alors, bon, ça c'est extraordinaire, parce qu'on sait qu'il y a au moins quelque chose de commun. Maintenant, mais à quoi ça peut correspondre dans le cerveau? Alors là, c'est pas Jensen qui l'a trouvé, hein, mais c'est les copains, hein, qui ont carburé et qui ont, par exemple, fait des modèles, alors avec le premier que vous devez connaître maintenant, c'est de l'ergactyle, la chlorpromazine, en un mot. Voilà, alors, voilà la chlorpromazine. Ici, vous voyez qu'il y a du soufre, de l'azote, peu importe. Voilà, le cycle benzénique de référence, il est là. Et puis le CCNH2, la voilà. Et à ce moment, on compare avec l'aldol. Eh bien, l'aldol, voilà la formule de Jensen qui est ici, NH2 qui est ici. Et à ce moment, alors voilà le raisonnement qu'on fait, c'est que pour que une substance chimique puisse agir sur le système nerveux, il faut absolument un impératif, c'est qu'il y ait un récepteur pour cette molécule. S'il n'y a pas de récepteur, de toute façon, circuler, il n'y a rien à voir. Pour qu'elle puisse agir, il faut qu'il arrive dans un récepteur. Et ce récepteur, ben, on peut déjà le dessiner en négatif. Voilà, puisque c'est ça le motif, eh bien tout ça, là, correspond au récepteur. C'est-à-dire que cette molécule, l'ergactyle, rentre dans le récepteur et présente cette portion. Et donc, on a la forme en négatif du récepteur. Si on prend l'aldol, eh bien, c'est le même raisonnement qui nous amène à dessiner le récepteur de l'aldol et qui est forcément la même chose que l'ergactyle, puisque ça a le même effet, ça va sur le même récepteur et on le dessine à nouveau. Et donc, à ce moment, reste à définir, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce putain de récepteur? Eh bien, alors, différentes manips sont arrivées à démontrer, hein, en mettant des produits radioactifs, en l'occurrence, hein, que finalement, c'était un récepteur à dopamine. Voilà. C'est-à-dire, finalement, le neuroleptique, c'est une molécule qui se trouve avoir une forme qui lui permet d'être compatible avec le récepteur à dopamine. Et que donc, à partir de 1965 à peu près, on a une certitude, c'est que les neuroleptiques peuvent s'expliquer, leur mode d'action peut s'expliquer par une interférence avec la dopamine. Voilà. Alors bien entendu, on a fait les dosages de dopamine. Alors comment on fait pour faire des dosages de dopamine à cette époque? Ben c'est simple, c'est souvent qu'il y a des gens qui se tuent en voiture, ou qui se pendent, ou que je ne sais pas quoi, on a pris des patients qui étaient manifestement psychotiques. On a fait le dosage de dopamine dans le cerveau. Et là, on a trouvé 3 fois plus de dopamine dans leur cerveau que chez les témoins. Donc, comme les psychotiques peuvent réduire les hallucinations grâce aux neuroleptiques, on a commencé à faire l'hypothèse que les neuroleptiques venaient en quelque sorte prendre la place de la dopamine, ce qui fait que par différentes régulations, la dopamine va diminuer, ce qui fait que les hallucinations vont commencer à se réduire, et puis progressivement les délires aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, là, pour faire très simple, on fait le rapprochement avec la formule de Jensen, et on s'aperçoit que la dopamine, c'est pas autre chose que ce cycle, et puis ça. Voilà. Et que ça, c'est replié, comme on le voit ici, plus ou moins. Et que donc, là, on a sensiblement la formule de la dopamine, qui est là, sous notre nez. Simplement, il a fallu un peu de temps pour arriver à la reconnaître, bien sûr, parce qu'elle était masquée, parce que les atomes ne sont pas en ligne droite, ils se recourbent en fonction de leur liaison, en quelque sorte. Et donc, eh ben voilà, il n'y a plus qu'à voir quelle est la tête de la dopamine. Voilà, c'est une enquête policière, quoi, en gros. Hein. Voilà, on a des indices, et puis progressivement, ben voilà. Ah oui, bien sûr, oui. Oh, ben maintenant, c'est un jeu d'enfant, quoi. Hein. C'est simple comme bonjour, quoi. Maintenant, donc on s'aperçoit qu'il y a donc des récepteurs à dopamine, c'est pour ça que la dopamine est efficace, et que les neuroleptiques viennent à leur place, mais on s'aperçoit qu'il y a 5 récepteurs de la dopamine au bon mot, et que celui qui est privilégié pour lequel il va y avoir un effet antipsychotique, c'est le D2, le deuxième en deux mots. Alors, voilà la dopamine, vous l'avez, ainsi que le benzénique, c'est du carbone avec de l'hydrogène, NH2, que vous avez ici, voilà les deux ici. Lui, il est replié, donc c'est très proche. Et puis, bon, bah, vous avez là ici un groupe hydroxy, un autre ici. Le compte est bon. Voilà, c'est-à-dire, on émet maintenant une hypothèse qu'on appelle la théorie dopaminergique de la schizophrénie. C'est-à-dire, on pense que la schizophrénie est dû à un emballement de la synthèse de la dopamine qui fait que ça dope les perceptions et ça les dope tellement que du coup on perçoit des choses qui n'existent pas. Hein. Dope au sens de dopage, quoi, hein, en gros. Hein, c'est vraiment juste pour une fois le terme. Et du coup, on commence à comprendre que les neuroleptiques sont des bouchons des récepteurs de la dopamine, et que donc ça empêche la dopamine de venir sur son récepteur, et que comme les récepteurs sont privés de dopamine, puisqu'on a mis un bouchon de liège à la place, il y a moins d'hallucinations. Et au bout d'un mois d'imprégnation, c'est pour ça qu'il faut toujours un traitement un peu long, hein, on appelle ça l'imprégnation, au bout d'un mois, presque tous les récepteurs sont saturés, et du coup, le système essaye de réagir, je l'explique tout de suite après, c'est pour ça qu'il y a des bouffées délirantes qui peuvent survenir dans les premiers jours, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire prescrire des neuroleptiques dans la ville, il faut forcément une institution avec la cheptaine qui surveille et qui voit si ça va mal, alors à ce moment, elle va pouvoir dire tout de suite au psychiatre que ça ne va plus et prendre les mesures d'urgence. Et à ce moment, le psychiatre va modifier le dosage ou la formule chimique, c'est-à-dire le médicament ou bien la quantité. Et donc, par essai, par erreur, c'est empirique en un mot, et puis c'est l'expérience du praticien, on va arriver à trouver un espèce de compromis qui fait que c'est assez efficace pour réduire les symptômes et c'est bien toléré, plus ou moins bien toléré par le patient. Bon, c'est assez facile à dire, c'est moins facile à vivre, hein, bien sûr. Alors, cette dopamine, je l'ai déjà donnée maintes fois, je vous le rappelle juste pour la bonne bouche. La dopamine est donc fabriqués par des neurones qui sont équipés de certains enzymes et qui sont capables de récupérer des acides aminés de l'alimentation, en particulier de la phénylalanine, ici, qui est sous cette forme-là, voilà sa formule, mais aussi de la tyrosine, ça vient donc par le sang, ça passe par la barrière hémato-encéphalique, et puis les enzymes sont donc capables, pour la phénylalanine, rajouter un groupe OH, ça vous donne la tyrosine, mais ce sont deux acides aminés qui proviennent de l'alimentation. Ensuite, c'est possible, une fois qu'on a la tyrosine, de repérer ce carbone-là et de lui rajouter un groupe OH. Alors à ce moment, c'est la dihydroxyphénylalanine, hein, c'est-à-dire cette phénylalanine auquel on rajoute deux groupes OH, et en abrégé, c'est la DOPA. Dihydroxyphénylalanine, voilà, et la DOPA, c'est bien entendu le précurseur de la dopamine. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette DOPA est facile à modifier grâce à une enzyme qui va arracher le CO2 qui est ici, la COO, c'est CO2. On l'arrache, cet hydrogène vient là, ça vous donne CH2, NH2. C'est une amine qui vient d'Adopa, d'où son nom de dopamine, tout simplement. Voilà. Alors, bien entendu, comme vous l'avez déjà compris, il y a des problèmes neurologiques. Et ces problèmes neurologiques, et les plus redoutables, c'est un pseudo-parkinsonisme. Ben, c'est pas étonnant, puisque quand on a le Parkinson, justement, on prescrit de la L-DOPA, comme vous le savez. Hein? Et donc, forcément, le Parkinson provient de la mort des cellules à dopamine, en gros. Et que forcément, puisque les neuroleptiques viennent empêcher la dopamine d'agir, il va donc y avoir une adaptation, donc on va produire de moins en moins de dopamine, donc il y a un manque de dopamine au bout d'un moment, et donc apparaissent la même chose que ce qu'on a dans le code du Parkinson. Voilà. Donc là, on comprend que les effets secondaires des neuroleptiques correspondent à une autre maladie, mais cette fois neurologique. On passe donc d'une maladie mentale à une maladie neurologique. Enfin, bon, il y a les correspondances. Donc ça colle avec l'observation clinique, en gros. Alors bon, il y a plein d'autres arguments, mais intuitivement, vous devez pouvoir à peu près les reconnaître. Alors, ça pose la question de cette dopamine. Je suis obligé de vous encore... T'as plus bon ?
Oui, c'est ta pile.
Ah oui, c'est la pile. C'est ta pile.
Voilà, alors, je pense vous l'avoir déjà dit, mais pour ceux qui n'étaient pas là, quand même, juste en deux mots, la dopamine est synthétisée par des 50 000 neurones, à peu près, qui sont placés ici, là, voilà, dans la substance noire, essentiellement, et puis dans le tegmentum mésencéphalique, ici, et ces neurones, là, projettent dans tout le système cortical, en un mot, et je vous donne juste l'essentiel, la première destination, c'est ce qu'on appelle les corps striés, c'est-à-dire le striatum. Les striatums, c'est un noyau régulateur des mouvements involontaires, essentiellement. Quand, bien entendu, il n'y a pas assez de dopamine, c'est là qu'on a les problèmes de tremblement et de difficultés de marche, de tout un tas de choses. Voilà, c'est parce que ça paralyse complètement le travail du striatum. Mais deuxième cible, qui est alors massive, c'est le cortex préfrontal. Et cortex préfrontal, ça veut dire que dans le Parkinson, c'est que le stade ultime de ce Parkinson, c'est justement d'avoir une dégénérescence, une démence en quelque sorte, qui peut survenir. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que voilà, ce qui nous rend humains, c'est justement nos lobes préfrontaux. Et si la substance noire est complètement dégénérée, il n'y a plus cette alimentation de fibres dopaminergiques. Et puis, bien entendu, on projette aussi sur le tubercule olfactif, comme vous voyez. Donc, bien entendu, il y a des problèmes avec l'olfaction. Et ça, c'est assez facile de voir que les patients qui vont avoir des difficultés avec la dopamine, hein, en l'occurrence, bah, vont avoir des difficultés à ressentir les odeurs des aliments. Et l'odeur des aliments est le régulateur de l'appétit. Donc, bien sûr, ils vont pouvoir ingurgiter, devenir boulimique, et donc, du coup... du poids énorme et difforme et obèse et tout. Et puis, bien sûr, vous avez le système de l'hypothalamus qui lui aussi profite de cette dopamine. Donc, bien entendu, dès que vous perturbez le métabolisme de la dopamine, vous allez avoir des problèmes hormonaux qui vont commencer à apparaître. Alors, ce qui est le plus remarquable, c'est surtout chez les hommes qu'on le voit, c'est que la poitrine se met à pousser. Parce qu'il y a une décharge de prolactine énorme, et donc du coup, des mamelles à faire pâlir d'envie un certain nombre de nanas, probablement. Et si jamais ils se palpent, oh bon Dieu, j'ai du lait qui sort. Alors là, bon, alors c'est sûrement dramatique pour les femmes, mais pour les hommes, je peux vous dire que... Si non seulement vous avez de la poitrine, mais qu'en plus vous faites du lait, alors là, non, là il part en vrille, quoi, hein, là, le copain, quoi, c'est sûr. Quoi. Bon, ben, comment c'est possible? Tout simplement parce que ça a un fort impact sur l'hypothalamus. Voilà. Bon. Et puis, enfin, le cortex entorhinal. Voilà. Bon, simplement, cette coupe anatomique, là, permet de comprendre déjà, d'anticiper sur tous les drames qui vont se produire, qu'on appelle les effets secondaires, quoi, qu'on ne pourra probablement pas le traiter aujourd'hui, mais bon, encore un petit peu de temps la semaine prochaine. Alors, comment ça peut se passer dans l'intimité du neurone à dopamine? Je crois que je m'arrêterai là, mais je ne vous lâche pas avant d'avoir expliqué ça. C'est ce qu'il faut.
Pour comprendre comment agissent les neuroleptiques, il faut se replacer au niveau de la synapse des neurones à dopamine.
Voilà. Donc, la synapse, ça veut dire au point de contact entre deux neurones.
Voilà, la fibre arrive, c'est la région présynaptique. Vous avez une fente et puis vous avez la région postsynaptique. Alors, on rappelle, ça c'est le premier neurone et ça c'est le deuxième neurone.
Donc, le neurone fabrique de la dopamine,
ici, qui libère cette dopamine dans la fente. De la fente, bien entendu, tout naturellement,
la dopamine va se diriger vers le récepteur à dopamine, hein, qui est adapté, en quelque sorte, pas loin, hein, non.
Voilà. Donc, premier temps, le neuroleptique bloque le récepteur de la dopamine. Voilà, alors je les ai figurés ici, là, neuroleptique, hein, NL. Ici et là. Donc, au lieu d'en avoir 5 disponibles, il y en a, au bout de quelques jours, il n'y en a plus que 2. Voilà, alors ça, c'est le premier temps. Hein. On met des bouchons.
Hein, exactement comme les boules tièces, hein, si vous voulez. Hein. Bon, forcément, il y a encore des choses qui passent, mais moins quand même. Hein.
2. Un message de rétroaction est envoyé pour augmenter la synthèse de dopamine. Hein. C'est-à-dire, puisque la dopamine fait retour, hein, puisqu'elle n'arrive pas à tomber sur les récepteurs, pas autant qu'auparavant, forcément il y a un feedback qui dit « Oh, on manque de dopamine, balancez la sauce
hein, !» Donc, boum, d'où les bouffées délirantes quand vous êtes au bout de 8 jours, 15 jours, et que du coup vous hallucinez encore plus que précédemment. Simplement, si l'équipe médicale est au point, elle le sait, et donc du coup elle va y parer. Donc pas de panique, en gros. On prévient le patient que il faut qu'il reste couché, que ceci, que cela, que, bon, il est dans sa chambre en observation.
Ensuite, bien sûr, donc, accélération de la synthèse de protéines, et puis ensuite, bien entendu, il y a beaucoup trop de dopamine, et au bout d'un moment, le neurone comprend que ça ne sert à rien d'en rajouter plus, puisque de toute façon, il y en a très peu qui passent,
et donc, progressivement, il diminue sa quantité. Donc, au bout d'un mois où on a complètement imprégné les récepteurs de neuroleptiques, à ce moment, l'ensemble des fibres à dopamine réduit la quantité de dopamine qu'elle produit. Alors à ce moment, bien sûr, les hallucinations descendent, les délires cèdent, et au bout de quelques mois, à ce moment, le patient peut ressortir, à condition qu'il prenne bien son traitement. Alors bon, pour ceux qui sont assez inconstants, bah, on leur demande de revenir une fois par mois, puis on fait la piqûre, ça s'appelle comme ça, hein. C'est les NAP, action neuroleptique prolongée, action prolongée. Et donc à ce moment, vous êtes couvert pendant un mois. Encore faut-il revenir au bout d'un mois, quoi. Hein. Sinon, hop, il y a un trou, donc il y a un manque, et donc à ce moment, les bouffées reprennent, et puis, ben voilà, tous les jours, vous avez des faits divers, hein, quelqu'un qui a égorgé je ne sais qui, et qui est sorti de l'hôpital il y a 3 semaines, ou je ne sais pas quoi, tout simplement. Et comme il y a 3 semaines, il est plus couvert probablement par les NAP, du coup, voilà, il a lu à fond la caisse. Alors bon, on va impliquer le médecin-chef qui l'a laissé sortir, et que je ne sais pas quoi, et que quelqu'un l'a regardé de travers, et je ne sais pas quoi. Enfin bon, vous connaissez ça par cœur.
Voilà, bon, je pense avoir à peu près donné les éléments. Donc,
Bien entendu, ça ne guérit pas, mais ça bloque les symptômes. Quoi. Alors, je crois qu'il faut que, si vous posez quelques questions, il faut que je m'arrête. Sinon, on ne pourra pas aller plus loin.